Bon matin tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Ça fait déjà plusieurs années que j'étais même pas venu au bâtiment, donc ça fait vraiment plaisir de vous voir. Puis ce matin, j'aimerais ça vous entretenir d'un sujet quand même pertinent. Je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde ici. Le titre de mon message, c'est « Pourquoi vouloir renoncer au péché? » Puis dans chacun de nos vies, on a nos points faibles, on a certaines choses dans notre vie qui nous fait chuter, certaines tentations qui nous affectent peut-être nous plus que d'autres personnes. Mais ce matin, j'aimerais ça vous donner peut-être une liste d'outils ou une liste de questions qu'on peut se poser quand ces situations-là arrivent pour nous aider justement à être victorieux lorsque ces tentations-là arrivent. Je voudrais vous montrer le texte un peu thème de ce matin, qui est Hébreux 12, versets 1 à 4, qu'on va prendre le temps de lire. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Puis j'aimerais qu'on se courbe dans un mot de prière tout de suite avant de débuter. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est un sujet qui nous touche chacun d'entre nous, puis un sujet qui n'est pas facile, la résistance contre le péché. Puis, Seigneur, avec ces textes qu'on va voir ce matin, on veut te prier que tu puisses nous parler, non pas par moi, par mes paroles, mais à travers ta parole à toi, les Saintes Écritures, puis qu'on puisse, Seigneur, en sortir des vérités, puis en sortir des raisons très claires pour lesquelles on devrait renoncer à ces péchés-là dans notre vie. Puis on te demande ta main, ta présence avec nous ce matin. Amen. Donc, notre vie quotidienne chrétienne est un combat de tous les jours. À tous les jours, c'est un combat qui est à renouveler, on ne s'en sort pas. C'est un combat contre Satan, contre le monde et surtout contre notre propre chair. Puis il est important de bien s'équiper pour le combat de toutes les armes et de tous les outils qui nous sont disponibles. La plupart d'entre nous dans la salle, le Seigneur nous a sauvés. Hein, on a été rachetés, on a accepté le don, le cadeau de Dieu. Mais on n'en reste pas là. Dieu ne fait pas que nous sauver puis nous laisser dans le même état dans lequel il nous a sauvés. Au contraire, il veut nous transformer de plus en plus à quelle image? À son image à lui. Puis, en l'image du Fils de Dieu, le seul homme qui a vécu parfaitement sur cette terre sans péché. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a vécu sa vie sans aucune mauvaise pensée, sans aucune mauvaise action, sans aucune mauvaise parole, comme le dit 1 Pierre 2, 22. Puis, c'est peut-être dur à croire, mais c'est exactement le plan de Dieu pour nous sur cette terre, c'est de nous faire ressembler, de nous transformer de plus en plus à cette image-là. Ça peut paraître être un objectif inatteignable, puis c'est vrai que dans notre vie sur terre, on ne sera jamais sans péché. On va simplement être parfait, rendu au ciel avec Dieu. Mais quand même, il y a un travail que Dieu fait déjà dans notre vie ici-bas sur terre, et ça s'appelle la sanctification. Puis on sait tous que dire non au péché, c'est loin d'être facile si on est honnête avec nous-mêmes. Et puis c'est pour cette raison que j'aimerais qu'on puisse répondre à cette question ce matin, pourquoi vouloir renoncer au péché? Puis en répondant à cette question, j'aimerais que chacun soit encouragé et davantage motivé à renoncer au péché. Parce que la plupart du temps, le fait qu'on puisse pécher, même quand on sait que c'est mal, parce que, je veux dire, on connaît la parole, on sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais ce qui permet que quand même on franchisse la ligne, puis qu'on fasse des péchés qu'on sait qui sont mal, c'est notre raisonnement. C'est que bien souvent, là, on est extrêmement bon pour raisonner, puis dire « Ah, mais dans ma situation à moi, dans mon cas particulier, c'est pas si pire que ça, tu sais, j'ai le droit de faire ce péché-là, là, j'en ai besoin, il faut que je le fasse. » Notre raisonnement est très, très fort. Nous sommes capables de justifier pratiquement n'importe quoi pour se dire que ce que l'on veut faire est bien. Donc, c'est pour ça que ce matin, j'aimerais donner quelques raisons qui devraient nous motiver à vouloir ressembler à Jésus et renoncer au péché. Donc, la première catégorie de raisons que je pourrais appeler comme ça, c'est à cause de ce qu'il est. Simplement à cause de la nature de Dieu, de ce qu'il est en tant que personne, on est invité à renoncer à notre péché. Puis la première chose que notre Dieu est, il est le Créateur. La première raison de vouloir être comme Jésus et de renoncer à son péché, c'est simplement à cause de ce que Jésus est, tout d'abord le Créateur, comme nous le dit Colossiens 1:16, que tout a été créé par lui et pour lui. Simplement le fait qu'il soit celui qui a tout créé et qui a créé tout ce qui nous entoure, mais aussi l'être humain, ça devrait nous amener à vouloir dépendre de lui. Nous sommes sa création et on lui appartient. Puis lorsqu'un peintre ou un artiste fait une belle peinture ou une sculpture, c'est quoi la première chose qu'il fait? Bien, il la signe. Il démontre que cette création-là lui appartient et qu'elle vient de lui et de personne d'autre. Puis c'est ce que nous sommes pour Jésus, pour Dieu. On est son œuvre, on est sa création, on lui appartient. On est la plus belle chose de la création. Puis, un beau passage que j'aime vraiment beaucoup dans le psaume 139 qui démontre cette réalité-là. Psaume 139 au verset 13 à 15, où le psalmiste me dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Puis ici, je pense que c'est un des plus beaux textes de la parole qui parle de la création spécifique de l'être humain, à quel point que Dieu était impliqué dans chacun, dans la création de chaque être vivant. Puis David illustre ici combien Dieu était présent au commencement, oui, de la création, mais aussi de notre création particulière à chacun d'entre nous. Dieu, c'est pas un Dieu qui a fait la création parce qu'il avait un job à faire, puis après ça, il est parti, puis il s'en occupe plus. Au contraire, Dieu a créé quelque chose pour avoir une relation avec sa création. Dieu aime sa création et il veut une relation avec elle. Et puisque Dieu est celui qui nous a fait, on s'entend qu'il est la meilleure personne pour savoir ce qui est mieux pour nous. C'est lui qui nous a fabriqués, c'est lui qui sait comment qu'on fonctionne. C'est la meilleure personne pour nous dire ce qui nous rend heureux, ce qui est bon pour nous. C'est simplement logique. Donc, si Dieu, dans sa parole, nous demande de renoncer au péché, c'est pas simplement pour nous interdire des plaisirs, c'est pas pour nous rendre malheureux, qu'on reste à l'écart de la société, puis nous, on a le droit de rien faire, c'est plate, c'est pas ça du tout. Au contraire, si Dieu nous demande certaines choses, c'est parce qu'il sait que c'est bénéfique pour nous, puis que ça va nous rendre heureux. Malgré ce que nous, on peut en penser, et malgré ce que le monde peut en penser. Puis quand on pense à ça, un monde sans péché, c'est un élément important de notre espérance d'une vie après la mort. Lorsqu'on va être au ciel avec Dieu, il n'y en aura plus de péché. Est-ce que c'est parce qu'il n'y aura plus de péché qu'on va être moins heureux? Bien non, au contraire, on va être libéré finalement de ce corps de mort-là. Il n'y aura plus de péché, on va être parfait au ciel avec Dieu, puis ça va être là le bonheur extrême, le bonheur ultime. Donc, si on est conséquent, le péché n'est pas là pour contribuer à notre bonheur, et au contraire. Donc, chaque fois qu'une tentation ou une occasion de chute survient, tu peux te rappeler que ça ne serait pas bien pour toi de faire le mal parce que ton Créateur te le dit. Deuxième chose que Dieu est qui devrait nous pousser à renoncer au péché, c'est que Dieu est souverain. Jésus-Christ est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et non seulement ça, mais il est ton roi, il est mon roi, il est ton seigneur, il est mon seigneur. Et puis, il y a plusieurs proverbes qui indiquent comment on devrait se conduire en relation avec un roi, comment est-ce qu'on devrait réagir quand qu'on est en relation avec un roi ou quelqu'un en autorité. J'ai sorti deux proverbes. Dans Proverbe 14:35, où on lit que la faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. Dans Proverbe 20, verset 2, « La terreur qui inspire le roi est comme le rugissement d'un lion, celui qui l'irrite pêche contre lui-même. » Puis évidemment ici, l'auteur du livre des Proverbes parle évidemment d'un roi terrestre. Il conseille au peuple d'obéir au roi et de faire en sorte de lui plaire. Il dit qu'on devrait craindre ceux qui sont en autorité parce qu'ils ont le pouvoir sur nous et que de toute façon, on sait que toute autorité a été instaurée par Dieu. Le peuple devait craindre le roi comme s'il était un lion rugissant, comme dit le proverbe. Donc, en fin de compte, faire ainsi est pour le bien-être de la personne, puisqu'il n'y aura pas de répercussions ou de châtiment de la part du roi. Donc, d'obéir au roi, oui, c'est bon pour le roi, mais c'est bon pour la personne parce qu'il ne subira pas de châtiment. Puis c'est d'autant plus vrai avec notre roi à nous. Pourquoi aurions-nous peur ou craindrions-nous nos autorités terrestres, mais on ignorerait le roi des rois hein, qui règne sur nous? Ce ne serait pas encore là logique. Puis Hébreux 10:31 nous dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, c'est vrai pour les inconvertis, mais il ne faut pas oublier que Dieu a autorité et pouvoir sur absolument tout, incluant ses enfants. Donc, s'il trouve bon de nous châtier, il va le faire. Mais heureusement pour nous, la colère de Dieu ne repose pas sur nous, comme le dit Romains 8, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Jésus nous a libérés de la colère de Dieu en la subissant à notre place. Par contre, Dieu reste souverain et il peut toujours nous punir comme il le désire. Donc, nous devrions craindre notre Dieu parce qu'il l'a autorité. Puis si on le craignait vraiment, nous n'aurions aucune difficulté à renoncer au péché. Si vraiment on craignait Dieu comme il le mérite, on ne pécherait pas. C'est parce qu'on ne le craint pas assez. Puis Salomon commence ses proverbes avec ceci, en écrivant que le commencement de la sagesse, c'est quoi? Est-ce que c'est la science? Est-ce que c'est les études? Est-ce que c'est la société? C'est quoi le commencement de la sagesse? Non, c'est la crainte de Dieu. C'est la chose la plus sage à faire, c'est de craindre notre Dieu. Puis Israël, dans le désert, a eu cette crainte de Dieu lorsque le Sinaï était tout en fumée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là dans l'Ancien Testament où ils sont dans le désert, puis la montagne, elle tremble, elle shake, il y a de la fumée. Là, vraiment, le peuple ont vraiment peur de Dieu. Puis c'est quoi la réponse de Dieu dans Deutéronome 5, 29, en réponse à cette peur-là que le peuple a eue? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Donc encore ici, on voit que Dieu, le but qu'on lui s'est soumis, ce n'est pas notre malheur. Mais non, hein, qu'est-ce qu'il dit dans Deutéronome 5, 29? C'est « afin qu'ils fussent heureux ». On est heureux quand on suit le Seigneur. On est heureux quand on est son serviteur, puis qu'on le craint et qu'on lui obéit. Donc, chaque occasion de chute, chaque fois qu'une occasion de chute se présente, on peut se rappeler que le roi de l'univers nous demande de ne pas pécher, qu'il est maître de nos vies et que nous lui devons obéissance. La troisième chose que notre Dieu est, qui devrait nous amener à renoncer au péché, c'est qu'il est omniprésent et il est omniscient. Donc, on devrait vouloir renoncer à notre péché parce que Dieu est omniscient et omniprésent. Dieu sait tout et il est partout. Peut-être que toi, ici dans la salle, tu viens à l'église à tous les dimanches, tu mets tes beaux habits, tu te mets des belles paroles dans la bouche, tu vas aux réunions de prière, tu participes à des activités d'évangélisation, etc., etc., et que chaque fois que tu es en compagnie d'autres chrétiens, tu montres ton beau côté. Avec tes beaux habits, ta belle coiffure, ta belle attitude et ton beau sourire. Que tu prennes tout ce que la Bible dit d'être et de le faire, mais dans le temps d'une réunion. Mais que rendu chez toi où personne ne te voit, tu jettes tout ça par la fenêtre et tu redeviens ce que tu es vraiment. Le contraire de ce que tu projetais. Peut-être que ça fonctionne. Hein? Peut-être que personne ne s'en rend compte. Peut-être que ça va fonctionner 1 an, 5 ans, 10 ans, toute ta vie. Peut-être que tu vas réussir à vivre une vie chrétienne de cette façon. Sans que personne s'en rende compte. Mais ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Puis j'aimerais qu'on prenne le temps de lire le psaume 139 au complet, qui est un beau texte qui va nous parler justement de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu. Vous pouvez tourner si vous voulez, vu que c'est un plus long passage, mais je l'ai à l'écran là, si jamais vous n'avez pas le texte devant vous. Puis je vais tourner moi aussi. Donc, le psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. On va s'arrêter ici, finalement, je ne lirai pas au complet. Donc, dans les 6 premiers versets du psaume, on voit vraiment l'omniscience de Dieu. David savait que Dieu voyait son cœur, qu'il le connaissait vraiment. Il connaît nos motifs et nos secrets les mieux cachés. Il sait si notre extérieur reflète notre intérieur, si ce n'est pas juste une façade qu'on a. Il sait si nos affections sont tournées vers les choses terrestres plutôt que célestes. On ne peut pas mentir à Dieu. On peut mentir à tout le monde sur la planète, mais à Dieu, on ne peut pas mentir. Puisqu'il sait déjà ce qu'on va dire avant même qu'on le dise, comme on a lu dans le texte, et qu'il peut lire directement dans nos cœurs. Dans les 6 versets suivants, versets 6 à 12, on voit plutôt l'omniprésence de Dieu. Puis David utilise plusieurs images pour illustrer le fait que Dieu est partout. David essayait de trouver les endroits qui pourraient être les plus loin possibles de Dieu. Il a mentionné les cieux, le séjour des morts, l'aurore, l'extrémité de la mer, même la noirceur. Il n'y avait rien à faire. David n'était pas capable de penser à un endroit où il pouvait se cacher de Dieu. Parce que Dieu est avec nous chaque seconde de notre vie, peu importe où on aille. Que je sois au travail, à l'église, au dépanneur, à l'épicerie, ou bien seul à la maison, Dieu est là. Et je peux pas décider de pécher quand je suis seul à la maison, que ma femme est partie avec les enfants. Ah, je suis seul à la maison, je vais pécher parce que personne ne me voit. Je peux pas faire ça. Je peux pas négliger mon travail parce que mon patron n'est pas en train de me surveiller. Je peux pas être payé au noir parce que je me dis que le gouvernement ne le découvrira jamais. On peut pas faire ça parce qu'il y a toujours une personne qui sait ce qu'on fait, qui est là, qui est présente, c'est Dieu. Parce que même si personne s'en aperçoit, Dieu le sait et le voit. Puis, c'est bien dans ces cas-là de s'imaginer Jésus comme étant physiquement à côté de nous, en tout temps, et de se poser la question, comment j'agirais si Jésus était là? Ou encore mieux, comment agirait Jésus à ma place? Donc, c'est ces petites questions-là qui nous forcent à nous rappeler que c'est pas vrai qu'on est seul quelque part dans un coin caché à faire notre péché. Il y a toujours Jésus qui est là, à côté de nous, et qui sait ce qu'on fait. Donc, ça peut être une très bonne raison de vouloir renoncer au péché. La deuxième section de raisons pour lesquelles on devrait arrêter de pécher, s'éloigner du péché, c'est à cause de ce que Dieu fait, de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait encore. Puis la première raison de cette catégorie-là, c'est qu'on devrait être reconnaissant, la reconnaissance. Puis quand on parle de ce que Dieu a fait pour nous, évidemment, on pense tout de suite à notre salut. Hein, c'est le plus beau cadeau, la plus grande œuvre qu'il n'a jamais faite, puis on en est directement bénéficiaire. Donc, c'est normal d'être reconnaissant pour ça. Puis on ne cessera jamais d'en parler parce que c'est ce que Jésus nous a demandé, de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Puis c'est ce qu'on fait dans nos milieux à toutes les semaines. Chaque semaine, on se réunit pour se souvenir et essayer de connaître de plus en plus la personne de Jésus et son œuvre. Puis plus on approfondit notre connaissance de lui, plus on est reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous, plus on cherche à comprendre tout ce que ça implique, hein, le fait que Dieu a donné son Fils pour nous. Quand on le médite, qu'on le comprend, plus qu'on le comprend, plus qu'on est reconnaissant parce qu'on se rend compte qu'on ne méritait absolument pas ça. Puis tellement que c'est grand comme œuvre. Et c'est cette reconnaissance-là qui devrait nous pousser à renoncer au péché. On devrait avoir tellement de gratitude envers Dieu qu'on voudrait tout faire pour lui. Dieu nous a créés, il nous a aimés, il nous a donné sa vie, il nous a justifiés, il nous a donné l'espérance d'une vie éternelle et encore aujourd'hui, il nous bénit à chaque jour. Ce n'est rien de renoncer à quelques plaisirs sur terre qui de toute façon sont éphémères, ne durent pas. En reconnaissance à notre Dieu qui nous donne une paix pour l'éternité. La reconnaissance est quelque chose de très important pour Dieu. Puis quand on lit dans la parole, c'est quelque chose à ne pas négliger. Puis j'aimerais vous proposer un autre texte dans lequel on peut tourner, qui est dans Luc 17. Une histoire qu'on connaît bien, où Jésus guérit des lépreux, dans Luc 17. Luc 17, verset 11 au verset 19, puis pour ceux qui n'ont pas le texte, je l'ai à l'avant aussi. Donc, Luc 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous! » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Donc, ce qui est étonnant ici, c'est de voir que sur les 10 guérisons qui étaient la guérison d'une maladie qui était assez grave à cette époque-là, la lèpre, il y en a simplement un qui est revenu pour dire merci à Jésus. On peut se demander qu'est-ce qui a poussé ce Samaritain-là à revenir voir Jésus, contrairement aux 9 autres qu'eux ne sont pas revenus. Pourquoi ce Samaritain a-t-il rendu grâce à Dieu tandis que les 9 autres non? Pourtant, les 10 ont reçu la même chose. Le Samaritain n'a pas été plus guéri que les autres. Ils ont reçu tous la même guérison. Eh bien, c'est parce que le Samaritain reconnaissait qu'il ne méritait pas ce que Jésus lui a offert. En ne rendant pas grâce à Jésus pour leur guérison, c'est exactement comme si les 9 autres disaient « On a été guéri parce qu'on le méritait, c'était juste la moindre des choses que Jésus nous guérisse. » C'est ça que ça voulait dire, en ne disant pas « Merci à Jésus ». Et quand nous ne sommes pas reconnaissants dans notre vie, nous prenons la grâce qui nous a été donnée comme acquise. Hein? Comme si on le méritait. Tu sais, Jésus, cette grâce-là que tu me donnes, ben, finalement, ce n'est pas tant une grâce. Ça me revenait de droit. C'est ça qu'on dit à Dieu quand on n'est pas reconnaissant. Mais tout ce que Dieu a accompli pour nous, c'est une grâce parce qu'on ne mérite absolument rien. Puis la seule chose qu'on mérite, c'est l'enfer. Ça, on le mériterait, par exemple. Mais il ne le nous donne pas. Il faut se rendre compte que lorsque nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu pour n'importe quelle grâce, c'est comme si on lui faisait savoir que cette grâce nous revenait de droit. Donc, si nous voulons démontrer notre reconnaissance envers Dieu, nous devrions nous détourner du péché. Une autre raison pourquoi on devrait vouloir renoncer au péché, bien, il est mort justement pour ces péchés-là. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort pour les péchés que nous avons faits, les péchés que nous faisons en ce moment et les péchés même futurs qu'on n'a pas encore faits. Puisque même en étant purifié, la chair reste toujours attachée à nous, on va continuer de pécher toute notre vie, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est pour ça que Jésus est mort pour tous ces péchés-là au complet. Par contre, la différence, c'est que maintenant, on a le pouvoir de dire non au péché, tandis qu'avant, nous étions esclaves du péché. Avant, on était pris avec cette nature-là. On n'avait pas la nature divine qui nous permettait de se sortir de cet esclavage-là. On était pris, mais maintenant, on a le pouvoir de dire non par l'Esprit que Dieu a mis en nous. Et dans 2 Corinthiens 5, 21, on lit que, sans tourner, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Évidemment, on parle de Jésus ici. Jésus qui est parfait, qui durant toute sa vie sur cette terre, comme je l'ai dit tantôt, n'a jamais péché, mais c'est lui qui a dû subir le châtiment pour le péché à notre place, lui qui n'en avait jamais fait. En d'autres mots, on peut dire que ce sont chacun de nos péchés qui l'ont cloué à la croix. Chaque fois que je cède à la tentation, chaque fois que je fais ce qui est contraire à ce que la Bible m'enseigne et que je fais exactement le contraire de ce que la Bible m'ordonne de faire, eh bien, je fais les actions qui ont conduit Jésus à devoir aller sur cette croix. Cette pensée seule devrait nous décourager à faire le péché, à commettre notre péché, si vraiment nous aimons notre Seigneur et nous sommes conscients du sacrifice qu'il a fait pour nous et du prix qu'il a dû payer pour nous racheter. Donc, une autre catégorie de raisons de vouloir renoncer à nos péchés, à cause de ce que nous sommes. Donc, on a vu à cause de ce que Dieu est, à cause de ce que Dieu a fait et qu'il fait encore, mais maintenant, on va regarder à cause de ce que nous sommes. Puis, une autre raison pour laquelle nous devrions renoncer au péché est notre nouvelle position en Christ. Ce que j'entends par nouvelle position est que, premièrement, nous ne sommes plus des enfants de Satan, mais nous sommes des enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous avons d'un côté toutes sortes de privilèges. Nous avons d'abord un Père qui écoute nos prières et nos supplications, puis le dernier chant qu'on a chanté, Abba Père, parle exactement de ça. On a un Papa céleste. Puis dans 1 Jean 3:1, il y a ce beau texte, sans tourner encore, qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » On a un Père en qui nous pouvons nous confier et qui ne nous abandonnera jamais. Nous avons un nouveau Papa. Nous pouvons avoir une relation avec le Père comme celle entre le Fils et le Père. Ça, c'est vraiment intense comme concept qu'on peut entrer dans cette relation-là que le Fils entretient avec le Père, aussi proche et aussi constante. Le fait d'être enfant de Dieu fait aussi de nous les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Dans Romains 8, 17, rapidement, on lit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Quand on y pense, on va hériter les mêmes choses que le Seigneur Jésus. Quand c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui est allé mourir à la croix, nous on n'a rien fait de notre côté, à part pécher, ben, on va hériter des mêmes choses que lui. Aussi, en plus, en étant enfant de Dieu, on est aussi appelé ses frères et ses sœurs, comme on le voit dans Marc 3, 35, où c'est écrit « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Jésus nous élève à son niveau. Puis ce qui est encore plus étonnant là-dedans, c'est qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères, comme on lit dans Hébreux 2. Moi, peut-être que des fois, j'aurais honte là, que quelqu'un m'appelle son frère, surtout de la part du Seigneur Jésus, que lui est sans tâche, sans péché, mais il n'a pas honte. Il n'y a pas honte de s'associer à nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parfois, il est facile d'avoir honte de quelqu'un de près de nous, puis pour pas grand-chose. Mais le Seigneur, malgré que nous péchions encore, veut s'identifier avec nous comme étant de sa famille. Il nous aime tant qu'il ne veut pas seulement que nous contemplions sa gloire, mais il veut nous faire participer à sa gloire. Mais prenant en compte toutes ces bénédictions-là de Dieu qu'on vient de voir, que Dieu nous donne à travers son Fils, il n'en reste pas moins que cette nouvelle position, que ce nouveau statut vient avec des responsabilités. Étant enfant de Dieu, co-héritier avec Christ et frère et sœur de notre Seigneur, il faut vivre et agir comme tel. Nous sommes maintenant des ambassadeurs pour Christ et nous devons le représenter comme il est et ne pas entacher son nom. Quand on pêche, puis qu'en plus c'est public, on entache le nom du Seigneur et on entache aussi le nom de tous les autres chrétiens, nos frères et sœurs autour de nous. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché discrédite directement le Seigneur, mais aussi tous ses frères et sœurs. Donc, une autre bonne raison d'éviter de tomber dans le péché. Qu'est-ce que nous sommes aussi maintenant? Nous sommes une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5, 17, on lit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La parole nous dit que nous sommes une nouvelle créature, que nous sommes plus que nous étions auparavant. La parole nous dit aussi que nous devons revêtir notre nouvel homme et que nous sommes nés de nouveau. Lorsque Christ nous a sauvés, il nous a régénérés. Il nous a fait devenir quelque chose que nous n'étions pas avant. Nous ne pouvons donc pas garder nos anciennes habitudes, les péchés de notre vie passée qui nous réconfortaient. Tout ça, c'est du passé, c'est derrière nous. Notre vie passée ne fait plus partie de nous. Le Seigneur nous a sortis de la misère du péché pour qu'on s'en éloigne et non pour qu'on s'y complaise. Puis je vous donnerai cette illustration-là. Comment vous vous sentirez si vous vous promenez en Afrique, quelque part dans la jungle, puis vous rencontrez quelqu'un qui est pris dans un sable mouvant, qui est en train de s'enfoncer, elle n'a aucun moyen de s'en sortir. Donc vous prêtez main forte à cette personne-là, vous lui tirez la main ou une branche, vous la sortez de ce sable mouvant-là, donc vous lui sauvez la vie. Littéralement. Puis que, une fois l'avoir sauvé, vous reprenez votre chemin, puis vous entendez un flou en arrière de vous autres. Vous en retournez. Puis la personne est sautée à deux pieds joints et est retournée dans son sable mouvant. Ça peut sembler étrange, puis on, en tant que personne qui vient de la sauver, on peut dire, bien voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Je viens de la sortir, puis elle retourne dans ses beaux draps où est-ce qu'elle était. Mais cette image-là, c'est exactement la même chose quand que on retourne dans notre péché. Dieu nous a sortis de là, puis quand on retourne dans notre péché, c'est exactement cette image-là. Le psaume 40, verset 2, dit quoi? Il dit « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, et il a affermi mes pas. » Lorsqu'un de ses enfants y retombe, cela attriste son esprit, même s'il est toujours prêt à nous pardonner, heureusement pour nous. Il ne veut pas nous voir retourner dans l'état d'où on est sorti. Être une nouvelle créature signifie que nous devons avoir une toute autre manière de penser qu'auparavant. C'est ce qui change le plus drastiquement à notre conversion, c'est notre manière de penser. On ne peut plus penser simplement au moment présent, à ma vie, à comment me satisfaire moi-même, maintenant et peu importe la manière. C'est plus ça notre focus. On doit penser avec un esprit nouveau et penser à l'éternité qui nous attend. Dieu ne nous a pas laissés sur la terre pour qu'on pêche, mais pour que nous travaillions pour lui et que nous lui ressemblions de plus en plus. L'avant-dernière catégorie de raisons qu'on va voir, en fait de raisons tout court, pourquoi renoncer à notre péché à cause de la relation qu'on a avec Dieu? Une autre raison de vouloir renoncer au péché est notre relation avec Dieu. Dieu veut entretenir une relation personnelle avec chacun d'entre nous, comme je l'ai mentionné au tout début. Puis Romains nous dit que par Jésus, on a obtenu la réconciliation. On est maintenant réconcilié avec lui, on a un accès auprès de Dieu. Nous avons maintenant la possibilité de communiquer avec Dieu. On peut savoir ce que Dieu a à nous dire par la parole en la lisant, et on peut parler avec Dieu à travers la prière. C'est magnifique. Donc Dieu veut qu'on lui parle et qu'on se confie en lui, qu'on lui raconte nos problèmes, qu'on intercède auprès de lui pour nos frères et sœurs et pour les gens qui sont perdus. Il veut avoir ce temps privilégié que nous lui accordons chaque jour pour être avec lui. Par contre, un péché dans notre vie qui nous domine, que nous laissons dominer dans notre vie, cela peut grandement atteindre la relation que nous avons avec notre Dieu. Parce que notre péché peut nous amener à nous éloigner de Dieu. Ça, ça commence pas par un péché flagrant. C'est très, très rare là, que c'est quelque chose, boum, qui arrive, mais c'est plus sournois. C'est très souvent par un petit péché qu'on tolère. Après ça, on en tolère un autre petit qui est un petit peu plus pire. Puis ça va comme ça en augmentant jusqu'à ce que ça nous amène à la culpabilité, que ça nous amène à plus se trouver digne de se présenter devant Dieu ou d'aller à l'Église, ce qui nous enlève la faim et la soif de la parole, ce qui nous amène finalement à délaisser. Le péché n'éloignera jamais Dieu de nous, mais peut nous éloigner de Dieu. Donc, il faut faire attention à ces péchés-là qu'on laisse dans notre vie volontairement, qui peuvent nous éloigner de Dieu. De plus, la relation que nous avons avec Dieu est une relation d'amour. On l'aime, Dieu, pour ce qu'il a fait puis pour ce qu'il est. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et la parole nous dit que si nous l'aimons vraiment, nous allons garder ses commandements. Et puis, j'ai mis une série de versets rapidement. Que l'apôtre Jean dit en rapport avec l'amour et les commandements de Dieu. Donc, je les défile rapidement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Pour résumer ces versets-là, si on aime vraiment le Seigneur, on va s'éloigner du péché. C'est notre démonstration d'amour envers lui. Et Jean est assez cru pour dire que si on fait le contraire, on est menteur, puis c'est pas vrai qu'on l'aime. Dernière raison qu'on va voir, à cause de la vision que Dieu a du péché. Mon dernier point est que nous devons renoncer au péché parce que le péché est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu déteste le péché au plus haut point, tellement qu'il a offert son Fils en sacrifice pour éliminer ce péché-là. Il faut le faire. C'est parce que le péché, ce n'était pas une petite affaire, c'était très grave. Sinon, il n'aurait pas envoyé son Fils si ce n'était pas si pire que ça. Dans Habacuc 1, verset 13, on lit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Dieu, dans son être, c'est un de ses attributs, il est saint. Il est juste. Il ne peut pas regarder le péché et l'ignorer et rien faire. Ce n'est pas dans sa nature. Il se renierait lui-même s'il ne punissait pas le péché. Puis en étant des enfants de Dieu, nous devrions hériter de cette vision-là du péché. On devrait mettre, hein, on peut dire ça des fois, on devrait mettre les lunettes de Dieu puis voir le monde à travers les yeux de Dieu. Malheureusement, le problème avec le monde dans lequel on vit, c'est que tout est banalisé, tout est relatif, il n'y a plus de vérité. Donc, on perd un petit peu cette perspective-là de bien et de mal. Tu sais, dans notre société, c'est tout un défi pour le chrétien de garder le dégoût envers le péché et de garder en tête à quel point c'est horrible parce qu'on est entouré de ça. Il y en a partout. Fait qu'à un moment donné, on dirait que ça commence à rentrer, puis on s'en rend plus compte. Dans notre société, l'homosexualité, c'est non seulement pas grave, mais c'est pratiquement encouragé et à la mode. La nudité, c'est pratiquement partout, à partir des postes de nouvelles ou même sur les boîtes d'étagères à la pharmacie. Le meurtre, c'est pas grave en autant que la personne soit encore dans le ventre de sa mère. Il y a plein de choses comme ça qui sont mal dans la société puis qui commencent à rentrer puis qu'on s'en rend pas compte. L'emprise du péché se voit dans toutes les sphères de la société. C'est le défi du chrétien de devoir demeurer ferme dans ce que la Bible enseigne, que ce soit en l'an 30 ou ce soit en l'an 2020. Il faut donc toujours se rappeler que le péché, peu importe sa gravité, est en horreur pour Dieu. Donc, en conclusion, mon but ce matin, c'est de vous laisser cette liste de questions-là, en rapport avec les points qu'on a vus, pour vraiment se donner un guide ou un outil pour que quand on est confronté à une tentation, à un péché, mon objectif, c'est qu'il y ait au moins une question qui vous pop dans la tête, puis qui vous détourne de ce péché-là, pour se rappeler ce que la parole nous enseigne. Donc, est-ce que je choisis de faire ce péché-là qui est devant moi, là, je suis confronté, est-ce que je choisis de faire ce péché-là, malgré que mon Créateur, celui à qui j'appartiens, me dit que ce n'est pas bien pour moi de le faire? Ou est-ce que je choisis de faire ce péché malgré que le roi de l'univers, mon roi, me demande de ne pas succomber au péché? Est-ce que je choisis de faire ce péché malgré que Dieu connaît mon cœur, qu'il est à côté de moi à tout moment et qu'il voit tout? Est-ce que je veux faire ce péché malgré que Jésus est mort pour moi et que je dois lui être reconnaissant? Est-ce que je veux faire ce péché malgré que Jésus est mort justement pour le péché et à cause du péché que je m'apprête à faire? Est-ce que je veux faire ce péché malgré que je suis un enfant de Dieu et que je le représente auprès des gens autour de moi? Est-ce que je veux faire ce péché malgré que je suis une nouvelle création et que j'ai le pouvoir de dire non au péché? Est-ce que je veux faire ce péché malgré que mon péché risquerait de m'entraîner loin de Dieu? Et finalement, est-ce que je ferais ce péché malgré que Dieu a en horreur le péché au point d'envoyer son propre Fils? Donc, je crois qu'en se posant ces questions devant une occasion de chute, on ne peut que se rendre compte que s'éloigner du péché est toujours le meilleur choix, la meilleure chose à faire, et qu'il n'y a plus aucun faux raisonnement qui puisse nous convaincre que ce péché que nous tentons de faire est bien. Donc, on va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est une source inépuisable de sagesse. Puis, Seigneur, ce matin, on a parlé du péché, combien il peut avoir une emprise sur notre vie, mais Seigneur, surtout, Seigneur, de tous ces aspects qui nous montrent que ce péché-là, c'est pas bon pour nous. Que ce péché-là, on ne devrait pas le commettre, Seigneur, parce que tu l'as dit, que ta parole nous l'enseigne. Donc, que Seigneur, on puisse vraiment s'imprégner de ta parole, que ta parole puisse entrer dans nos cœurs et que chaque jour de notre vie, lorsqu'on est confronté à ce péché-là, qu'on puisse être victorieux, non par nos propres moyens, Seigneur, parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire, mais que, Seigneur, par ton esprit, tu nous rendes victorieux de ce péché-là. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses être avec tous ces gens qui sont ici et ceux qui vont écouter ce message, qu'ils puissent utiliser ta parole comme un outil pour les garder loin du péché. C'est en ton nom que je t'en prie. Amen.